À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale.
Troisième épisode sur le terrain. Bonsoir Céline Bardet.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez parlé de la justice pénale internationale, de ses avancées, de ses limites, et notamment à partir de votre expérience au sein du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de votre expérience de terrain. En fait, qu'on peut mettre au pluriel, parce que vous avez quand même sillonné le monde, peut-être pas le monde entier, mais enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, pour un certain nombre d'organisations internationales. Les Nations Unies, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, la Commission européenne et d'autres. En fait, vous aviez besoin d'aller voir les choses sur place après l'expérience au sein du Tribunal pénal international de La Haye?
Oui, je pense qu'il y avait profondément ça. Je ressentais un besoin fort d'aller sur le terrain. Et quand j'étais au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où je me suis dit... Je suis assise dans une salle d'audience où on traite du conflit dans les Balkans et à l'époque, j'y avais jamais mis les pieds. Et ça, ça m'a questionnée et encore peut-être la question éthique. C'est-à-dire que je me posais vraiment la question de me dire mais à quel moment je peux être assise dans une salle d'audience à parler de choses alors que je sais même pas à quoi ressemble ce pays. Je me suis vraiment posé ces questions-là. Et puis après, il y a eu un déclic aussi. C'est-à-dire quand il y a les victimes qui sont venues, parce qu'on avait les victimes qui venaient témoigner, c'est pareil. Je crois que j'avais, je me disais, voilà, des gens qui arrivent dans un. En plus, il faut aussi imaginer hein, le tribunal pénal international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formalités. Tout le monde est en robe.
C'est très solennel.
C'est très solennel. C'est tout. C'est flambant neuf. Il y a des écrans partout. Et j'ai un souvenir surtout d'un monsieur qui était venu témoigner, qui était d'ailleurs dans le camp à Burchko, qui était dirigé par Goran Jelicic à l'époque. Et qui était venu avec un filet, parce qu'il avait emmené des légumes de son jardin, parce qu'il savait pas s'il allait manger, s'il y aurait à manger, etc. Je dis ça, c'est-à-dire que là, j'ai réalisé à quel point il y avait un fossé énorme, c'est-à-dire qu'on avait quand même des gens qui arrivaient de villages, qui avaient vécu des trucs atroces, et qui se retrouvaient à La Haye, dans un contexte. Et tout ça, m'a amené à me dire quand même, en fait, la vraie question, elle est sur le terrain, en fait. C'est cette justice-là, elle est bien, enfin, c'est, mais comment les gens ils la reçoivent sur le terrain? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en fait la justice? Comment ils vivent? Donc oui, j'avais ça et donc j'ai pas fait tout de suite.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Vous avez fait un petit détour.
Ouais.
Les Balkans, ce sera pour demain d'ailleurs voilà. dans notre série. Le détour a été aux États-Unis. Vous ouais. êtes parti à Austin, Texas.
Alors oui.
Ouais. Deux ans et demi après le. Après être resté au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et vous avez travaillé dans les couloirs de la mort.
Ouais, alors je suis partie aux États-Unis plus pour des raisons personnelles. Honnêtement, à l'époque, je m'étais dit un jour je vais aller vivre au Texas. J'aurais jamais pensé ça. Mais voilà, et du coup, je suis arrivée là-bas et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et j'ai rencontré un avocat qui travaillait sur les appels
des condamnés
à mort. Et ouais, ça m'a profondément marqué. Alors en plus,
ça vous a ouvert un monde que vous ignoriez.
Alors là, mais totalement. J'étais, voilà. Alors la peine de mort. Est-ce que c'était, etc. Mais c'était vraiment un monde que je connaissais pas. Qui plus est au Texas, hein, qui est quand même un des États qui condamne le plus à mort. Et je me suis retrouvée à aller avec lui dans les couloirs de la mort, ce qui est quand même un truc. En plus, dans ces espèces de prisons ultra aseptisées aux États-Unis, enfin tout est, c'est pas des prisons pourries quoi, tout est hyper aseptisé, tout est limite flambant neuf, tout est propre, etc. Ce qu'on pourrait envier quelque part par rapport à des prisons qu'on pourrait voir en France. Mais et voilà, et je me suis retrouvée à et donc on a en fait ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir les condamnés à mort et pour les aider à rédiger leur appel parce que c'était un peu le dernier appel avant l'exécution définitive de la peine. Donc autant vous dire que ça je sais pas, c'était extrêmement
expérience
dur.
Humaine.
Ouais, et ben expérience humaine bien sûr parce qu'à chaque fois on s'assoit en face de quelqu'un tu t'assois en face de quelqu'un quand même qui est condamné à mort. Enfin et donc oui, il y a une expérience humaine très forte déjà, Et puis tout ce contexte, et puis cette machine aussi. Enfin, franchement, la machine judiciaire américaine, c'est quand même un truc énorme. Et cet avocat, il fait ça depuis des années. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même admiratif de ça. C'est-à-dire que son métier, il fait que ça. Et inutile de préciser, mais là, ça va nous casser l'ambiance. C'est que je crois qu'on a dû avoir un.
Ah, c'est la question que j'allais vous poser.
Voilà. Et en fait, même pas, c'est reparti à la Cour suprême, etc. Mais on a réussi à sortir cette personne-là de l'exécution de peine de mort.
Ça, c'est dur à vivre.
Bah, c'est horrible. Franchement, c'est horrible.
Vous avez l'impression que vous vous êtes donné pour rien. Vous avez l'impression que vous avez échoué. Qu'est-ce que vous ressentez?
Ça m'a beaucoup marqué parce que, j'ai pas une impression moi d'avoir échoué, je sais pas comment dire, personnellement et tout. C'est plus là, ce que j'en retire, enfin ce qui me reste de très fort, c'est j'ai surtout l'impression d'avoir été Don Quichotte là pour le coup. C'est-à-dire où t'as l'impression que le système il est biaisé de toute façon, que c'est mission impossible quoi. Donc en fait t'y vas, mais
c'est peine perdue.
Tu sais que c'est
une fois.
Alors voilà. Et justement, cet avocat m'avait dit cette fois-là, c'est pour cette fois-là que tous les jours je fais ça. Et ça lui était arrivé quand même, parce que je lui ai demandé aussi, parce que j'étais tellement désespérée. Et il a eu quand même des affaires, il a retourné des affaires, donc il y est arrivé. Mais je sais pas, une affaire sur 100, quoi. Enfin, donc non. Et puis après, il y a autre chose. Il y a aussi le positionnement par rapport à la peine de mort, plus sociétal. C'est-à-dire quand tu parles aux gens, je me souviens, on avait été des fois, on était attaqués limite par les gens parce qu'on allait dans les couloirs de la mort, parce que les gens considéraient qu'ils avaient été condamnés à mort et que c'était très bien et que voilà, que ça n'avait pas de sens d'aller aider ces gens-là. Inutile de préciser aussi, ça aussi, ça m'avait marqué parce que j'avais pas du tout cette notion-là et c'était même pas quelque chose qui c'était même pas un sujet qui venait dans ma tête, enfin d'ailleurs, et je sais pas pourquoi, mais qui je voyais, c'était des personnes afro-américaines, la plupart, ou dans les couloirs de la mort, c'est ça. Ça aussi, ça m'a profondément marqué quand même, parce qu'il y a un moment où t'es quand même obligé de te poser quelques questions, parce que tu te dis, mais attendez, alors tous les condamnés à mort là, c'est quand même à quasiment 100%. Moi, j'ai jamais vu un blanc dans les couloirs de la mort. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, parce qu'on sait qu'il y en a, mais voilà. Et ça m'a marqué aussi. Qui est autre chose, mais qui est une vraie discussion aussi sur la société américaine et en général quand même, d'un seul coup, ça, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu et aussi, d'ailleurs, ça, plus, le monde, enfin, le niveau social et socio-économique, quoi. On voit bien que c'est des couches de population les plus vulnérables qui se retrouvent là. Donc, ça m'a profondément marqué, ouais. Je ne referai pas.
Oui, on entend. D'une machine à une autre, d'une certaine façon, parce que des États-Unis, vous voilà en janvier 2001 à Vienne, en Autriche, mais pour le compte des Nations Unies, vous rejoignez le bureau Crimes et Drogues, et vous travaillez avec un certain Jean-Paul Laborde, qui a beaucoup compté pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bureau ?
Alors, moi, je suis arrivée d'abord pour travailler sur... je sais même pas comment on traduit ça. Crime Prevention Officer. Donc, sur la prévention de la criminalité. C'est comme ça. Et on m'a embauchée pour travailler sur la question de la criminalité transnationale organisée. Donc, le crime organisé, quoi. Je me suis retrouvée à travailler avec un magistrat français qui s'appelle Jean-Paul Laborde. Et en fait, rapidement, je suis arrivée en janvier 2001. Et là, j'étais pas censée faire ça au départ, parce que quand même, on est dans le quartier général, voilà, des Nations Unies à Vienne, hein, donc avec plein de bureaux, avec des immeubles qui font 12 000 étages, etc. Et moi, je me suis retrouvée à partir tout de suite sur le terrain, avec Jean-Paul Laborde, parce qu'on était chargé, en fait, de veiller à ce que les États alignent leur code pénal avec les dispositions de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ça veut dire quoi? C'est la traite des êtres humains, ça touche à plein de trucs, le trafic de migrants, etc. Du coup, je me suis retrouvée à aller beaucoup sur le terrain. Mais après, quelques mois après, il y a eu les attentats.
Le 11 septembre.
Voilà. Il y a eu le 11 septembre 2001.
Et là, tout bascule dans une lutte antiterroriste.
Et alors voilà, là, d'un seul coup, déjà, choc intégral, je veux dire, pour tout le monde. Et on a le secrétaire général des Nations Unies qui vient à Vienne et qui dit Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui est votée, qui s'appelle la résolution, enfin qui est la résolution 1373, que j'ai connue par cœur pendant des années, mais là je suis pas sûre que je pourrais vous la réciter, mais qui vient et qui dit voilà, il faut que tous les États alignent leur législation, il faut que tous les États rendent un rapport sur l'activité sur les
États membres du Conseil de sécurité,
les États membres du Conseil de sécurité, les États membres non, les États membres de l'ONU.
De l'ONU.
Donc on parle quand même de 190. Je sais plus combien il y a d'États membres aujourd'hui, mais en face c'est beaucoup
que le Conseil de sécurité.
Et donc voilà, et comme nous on faisait ça plus ou moins déjà sur le crime organisé, ils nous ont dit voilà, c'est vous qui allez faire ça. Donc on s'est retrouvés avec Jean-Paul. Ah, mais alors là, on a fait, je sais pas combien de pays
ensemble. Je peux vous le dire, parce que j'ai lu, vous avez fait 93 pays en deux ans.
Voilà, possible. C'est ça. Je me souviens qu'on en a fait un nombre absolument infini. Et là, pour le coup, bah, je me suis retrouvée à apprendre le terrain que j'appelle aujourd'hui terrain plus plus. Après, j'aurais fait du terrain moins moins. Mais j'ai appris ça, ouais, effectivement. Et là, j'ai vu du pays.
Et vous avez vu aussi des chefs d'État, des politiques.
Ouais.
Vous vous êtes sans doute à un certain moment heurté à. Je ne sais pas si c'est. On peut parler de pression, mais en tous les cas, peut-être que vous avez à un moment senti comme une fragilisation de cette éthique que vous portez, parce que je suppose que dans certains pays, on n'a pas la même conception et du terroriste et de la lutte contre le terrorisme que dans d'autres. Et donc, aligné sur un même code. Dans certains pays, ça ne suppose pas la même chose que dans un autre.
Voilà.
Ne serait-ce que ça.
Oui, oui. Bah déjà, voilà. Non, mais exactement. Là, tout est dit. Et aussi, on est dans des enjeux politiques. Et effectivement, quand je dis ces missions de terrain un peu plus, c'est-à-dire que c'est très institutionnel. On rencontrait les chefs d'État. Donc, il y a aussi tout un jeu diplomatique, etc. Que moi, j'aimais pas. Je me suis pas sentie à l'aise là-dedans. En même temps, j'en suis extrêmement heureuse parce que j'ai appris plein de choses et j'ai appris tous les codes et ça m'a beaucoup servi après. Mais effectivement, la limite aussi à cela, ça a été cette espèce d'éthique parce que concrètement, nous, on arrivait avec l'étiquette des Nations Unies, c'était pas rien, en disant aux chefs d'État, vous pouvez prendre des lois, il faut que vous preniez des lois antiterroristes. Et en gros, Sous des soupçons de terrorisme, en gros, vous pouvez arrêter qui vous voulez. Alors en plus, vous allez voir, avec la résolution 1373, au lieu de garder à vue les gens 24 heures, vous pouvez les garder 6 jours. Yalla et tout ça. Sauf que ça, quand tu te fais dans un pays qui a à peu près un état de droit qui fonctionne, parce que là, il y avait une urgence, etc., qui pouvait se comprendre très bien. Sauf qu'effectivement, quand on arrive dans des pays un peu plus dictatoriaux, alors eux, ils vous accueillent évidemment avec les bras ouverts, parce que vous êtes simplement en train de leur dire... Nous sommes
en
les
termes
Nations
de liberté
Unies.
Publique et droits de l'homme.
Voilà, on va vous donner, on va vous bénir, on va vous appuyer pour prendre des lois qui vont vous permettre d'arrêter qui vous voulez à partir du moment où vous dites que ce sont des suspects de terrorisme. Donc oui, là, il y a eu un problème pour moi d'éthique, ouais, vraiment, et qui au bout de 2 ans a est monté parce que je voyais. On est allé en Haïti, on est allé en...
C'est la dernière expérience en Haïti, hein, décembre 2002.
Voilà, oui, Haïti, voilà.
C'était un peu le point de bascule pour vous.
Ouais, Haïti, ça a été le point de bascule, clairement. Mais il y a bien, on est allé en Biélorussie. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois bien que il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est là où on rentre aussi dans... L'ONU, c'est une grosse machine. Et vous êtes dans une institution... Et donc, même si évidemment qu'on peut avoir des échanges avec ses collègues et qu'on peut discuter, c'est pas évidemment, mais là pour le coup, bah t'es en mission, tu représentes une grosse institution et l'institution c'est ça. Et donc moi, ouais, à un moment, Haïti, voilà, ça a été un peu la goutte d'eau. Et donc je suis partie après. Pour moi, c'était pas possible. Et en fait, je pense aussi qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'il y avait toujours cette envie, en fait, d'aller sur le terrain. Mais du coup, je suis allée beaucoup sur le terrain. Mais peut-être que ça m'a, d'un seul coup, je me suis dit, ok, mais c'est pas ce terrain-là que je veux faire, en fait. Déjà, j'avais fait évoluer un peu les choses parce que au début des missions, ça restait très institutionnel. Ou après, on allait voir les ministres de la justice. Après, il y avait un côté technique, hein, parce que vraiment, il fallait dans le code pénal, il fallait qu'on s'assure. Ce qui était, cela dit, je dis quand même super important. Parce que pour faciliter la coopération internationale, en fait, aussi simplement que ça, il faut que les pays, on ait les mêmes définitions. Sinon, en fait, vous pouvez pas coopérer. Parce qu'il y a des gens que vous pouvez pas arrêter, tout simplement, parce que deux pays vont avoir une définition différente. Donc le travail en soi, il était ultra important, ultra légitime. Et donc ça, je suis très fière de l'avoir fait. Mais Au fur et à mesure, quand même, moi, je demandais, on essayait d'aller voir les organisations de la société civile, parce que je me disais, attends, mais ce serait peut-être bien d'écouter ce que les gens ont à dire, les gens dans ces pays-là, c'est-à-dire pas les politiques, pas les élus, aussi la société civile. Et c'était très difficile. Et oui, à un moment, je pouvais plus, quoi, en fait. Et là, on revient peut-être à cette notion d'éthique, parce que c'était difficile pour moi, parce que j'avais un super poste. Je gagnais très bien ma vie. Et ça, c'est des choses qu'on parle pas souvent, mais enfin, c'est quand même agréable de bien gagner sa vie. Et donc, j'avais 30 ans, hein. J'avais 30, je sais pas quel âge j'avais, 30 ans, je crois. J'adorais Jean-Paul Laborde. Enfin, je travaillais.
Vous êtes partie en décembre 2002, vous aviez 30 ans.
Voilà. Ben, exactement. J'étais jeune, je me souviens plus exactement des dates. Jean-Paul Laborde, j'adorais travailler avec lui. J'adorais ma vie à Vienne. Vraiment, c'est une ville très sympa à vivre. Bref, j'avais vraiment tout. Et j'étais en plein début de carrière. C'est-à-dire que c'était hyper important aussi d'un point de vue de carrière. C'est que je pouvais, enfin là, j'avais une opportunité de grandir dans l'institution et de faire des choses, quoi. Et ça, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Et de vous, et de l'image que les gens de vous. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à dire, je vais me casser, quoi, je vais partir. J'avais mes potes qui me disaient, mais genre, t'es folle, il faut pas faire ça. Tu vas ruiner ta carrière, tu vas être complètement blacklisté ou je sais pas quoi. On quitte pas les Nations Unies comme ça. Donc j'ai une pression très dure quand même. Enfin, j'ai mis longtemps à. Mais voilà, il y a eu, je sais pas, sûrement cette éthique, ouais. En tout cas, moi, il y a un moment, ça me correspond. Je pouvais pas. En fait, je pouvais pas.
Vous dites, c'est pas ce terrain-là que je voulais faire.
Ouais.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que moi,
quel terrain vous auriez aimé ou que vous avez sans doute fait après d'ailleurs, mais.
Ben moi, je voulais le terrain des gens, quoi. C'est-à-dire, j'avais envie d'en... En fait,
là, vous voyez des gens.
Ben voilà, mais en fait, quels gens? Est-ce que quand tu t'assois avec les chefs d'État et les ministres, tu entends la parole ou le battement de cœur d'un pays? Je suis pas sûre, quoi. Même si je ne balance pas d'un revers de main ce que ces gens-là avaient à dire, hein, parce qu'il y avait des choses intéressantes. C'est pour ça, c'est pas une question des gens, mais. Parce qu'il y a des choses extraordinaires. J'ai rencontré des gens comme Mandela. J'ai rencontré aussi des chefs d'État qui avaient une vision. J'ai rencontré des gens... Je me souviens, rien à voir, une ministre de la Justice en Roumanie, dont j'ai complètement oublié le nom, qui était extraordinaire, qui avait une vision extraordinaire. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires.
Ça a été quand même une période exaltante.
Mais j'avais envie d'autre chose. Tu tapes des réunions qui n'en finissent pas, qui servent à rien. Voilà, tu passes ta journée assis en réunion à... Je sais pas quoi, je ne sais pas quoi faire. Tu remplis des formulaires B12, B13, B15 pour partir en mission. On te demande des rapports à n'en plus finir. Les Nations Unies, c'est quand même ça aussi. C'est quand même un peu belle du Seigneur, quoi. Donc, et ça, c'est une réalité. Donc, et il y a une forte hiérarchie, il y a un système. Moi, j'avais du mal, hein, là-dedans, ouais. J'avais quand même du mal à trouver ma place là-dedans.
Alors, vous êtes partie au Kosovo, hein, en 2004, mandatée par une autre grosse institution,
oui.
Une grosse machine, hein, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Vous allez rester 4 ans au Kosovo, on en parlera dans l'émission de demain. Mais justement avant, par rapport à ces missions pour les institutions internationales, par exemple, l'OSCE, machine différente des Nations Unies, ambiance de travail différente?
Quand même, ouais. D'abord, quand même, c'est une organisation différente, parce que c'est une organisation qui est quand même plus pragmatique sur les questions de sécurité. Mais il y a aussi le fait que, à travers cette organisation, je suis partie sur le terrain. Et donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est différent quand vous êtes assis dans un HQ, quoi, et quand vous êtes sur le terrain. Parce que le terrain, de facto, vous avez forcément une marge de manœuvre, même si vous restez dans une institution, avec ses règles, avec, justement, encore avec ses réunions pourries et ses formulaires B12 à remplir. Mais vous êtes quand même sur le terrain. C'est-à-dire qu'après, vous sortez de votre bureau, vous prenez votre voiture et vous êtes sur le terrain. À Vienne, par exemple, c'était plus compliqué parce que dans le HQ, voilà, vous êtes à Vienne et vous êtes dans les bureaux. Et quand vous sortez de votre bureau, vous êtes dans un autre bureau. Donc, c'est juste ça la différence.
Vous êtes une grande reporter pour la justice.
Une grande reporter.
Céline Barbet, c'est un peu comme un grand reporter. Vous allez sur le terrain. Et...
Ah oui, dans ce sens-là.
Oui, dans ce sens-là.
Ouais.
L'enquêtrice internationale.
Oui, ben voilà. Non, mais je suis quand même enquêtrice internationale. Non, mais
c'est vous qui l'avez d'ailleurs défini. On va peut-être en parler parce que du coup, vous êtes peut-être pour l'instant la seule à savoir vraiment ce que c'est qu'être une enquêtrice internationale. On tourne autour là.
Oui.
Donc c'est comme une grande reporter, mais pour la justice.
Non, en fait, d'abord, c'est quand même très sérieux. C'est-à-dire, il y a un diplôme. Il y a un diplôme. J'ai un diplôme. Non, non. y a un institut d'enquête criminelle internationale, je crois que c'est comme ça, qui se trouve à La Haye, qui est unique dans le monde et qui effectivement forme à l'enquête, mais en fait vous forme à l'opérationnel, hein, presque de police, d'enquête, mais pour les crimes de masse. Ou, voilà. Donc j'ai passé ce diplôme-là, etc. Mais effectivement, après, c'est ça. C'est mais moi, je crois que j'ai besoin de... En fait, j'ai besoin de voir, quoi. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de... C'est ça, je crois. J'ai besoin de sentir, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'aller sur le terrain, j'ai besoin de pour comprendre en fait. Je trouve que sinon c'est pas que le reste est pas bien. Moi c'est pas ce que je dis, mais pour moi c'est pas complet. Donc oui, peut-être reporter de justice, peut-être, je sais pas, mais j'ai en tout cas j'ai un besoin de voir quoi.
En quoi consiste votre travail si on est sur le terrain, que vous avez une mission qui est enquêter sur tel ou tel crime de guerre? Comment faites-vous? Vous récoltez des preuves, vous allez interviewer des gens.
Ouais, alors c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je
bah oui, parce qu'on a envie de savoir.
Ouais, mais c'est hyper difficile à expliquer parce que, je sais pas, parfois il y a une image aussi, on est là en enquête. Déjà, il y a un travail préalable, hein, c'est-à-dire qu'on part jamais sur le terrain comme ça en se disant tiens, il y a eu des crimes là-bas, je vais y aller, je vais essayer de trouver des infos.
Documentation pour commencer.
Voilà, donc il y a tout un travail préalable. Ensuite, la documentation de crimes et la prise de témoignage, elle se construit aussi sur la base de questionnaires où il y a des structures, c'est-à-dire qu'on ne vient pas, par exemple, interroger une victime comme ça en lui disant ce que d'ailleurs tout le monde peut faire en réalité. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Non, il y a le travail d'enquêteur, c'est vraiment de... pas de diriger au sens de d'influer, mais de conduire en fait la personne, d'ailleurs que ce soit une victime ou quelqu'un qui a été témoin de quelque chose, ou d'ailleurs un suspect aussi, c'est pareil, c'est la même approche, de conduire cette personne-là, de guider à ce qu'elle nous donne les éléments dont nous on va avoir besoin, parce que nous on a un objectif judiciaire, et l'objectif il est de se dire... Il faut qu'on ait tel et tel et tel et tel élément pour établir qu'un crime a été commis. Donc c'est ça en fait le travail d'enquêteur, c'est ça, c'est réunir tous ces éléments-là jusqu'à ce qu'on considère que on a suffisamment d'éléments étayés. Et en fait, le travail d'enquêteur, il faut savoir aussi qu'il y a comme un truc de ping-pong. C'est-à-dire, il y a ceux qui documentent et il y a la partie analyse. Vous documentez une partie des choses. C'est-à-dire, moi, je vais vous voir sur le terrain, vous me racontez quelque chose, quelqu'un me racontait tout, je ramène tous ces éléments, je prends un temps, pour figurer, on va dire, je rentre, etc. On va analyser tout ça, et là, on va se dire, ah, ok, donc là, on a des éléments qui nous amènent peut-être à identifier un auteur de crime, mais il nous manque ça, c'est comme un truc de puzzle. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui nous manque, et on va repartir ou envoyer des enquêteurs. Au tribunal, par exemple, pénal international, il y a des enquêteurs et il y a des analystes. Et c'est ça la différence de travail. Parfois, on fait les deux. Mais on analyse et ensuite, l'analyse vous amène à aller identifier ce qui vous manque et vous retournez chercher ce qui vous manque jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'éléments qui vont vous permettre de vous dire « j'ai un dossier juridique, j'ai suffisamment d'éléments, et j'ai un truc qui se tient ». Et donc
que vous remettez ensuite dans les mains de
la justice. On fait une communication à la Cour pénale, en tout cas voilà, ce qui part à la justice. Donc c'est un peu tout ça le travail d'enquêteur, mais c'est plein de choses. Après je fais pas que ça, hein, mais voilà, le travail c'est ça.
Quelle qualité cela requiert-il?
Alors moi j'ai envie de vous dire que je suis lentille. Je suis tout ce qu'il ne faut pas être pour être enquêteur. Non mais parce que faut quand même très rigoureux. Faut être très structuré et faut être très focus. Alors focus, moi je le suis pas dans la vie, mais par contre quand je suis sur le terrain et quand je suis dans mes activités, j'ai une capacité de concentration extrêmement forte. Comme qualité, après, je sais pas, mais
d'écoute peut-être déjà, d'observation.
Alors d'écoute, ouais, mais alors après ça s'apprend aussi, mais c'est vrai que l'écoute c'est hyper important. Par exemple, il y a peu de gens qui savent que il faut pas. Par exemple, c'est très difficile. Faites l'expérience de quelqu'un qui vous raconte quelque chose et dans votre tête vous dites, et j'invite tout le monde à essayer de le faire. Vous prenez quelqu'un, il vous raconte quelque chose et vous dites pendant 5 minutes et vous n'interrompez pas cette personne et vous essayez d'avoir la poker face. ce que moi je n'ai jamais.
Laissez rien paraître.
Mais ne laissez rien paraître. Eh ben, faites-le. C'est extrêmement difficile. Et le travail d'enquêteur, enfin, prendre des témoignages, c'est ça. Et c'est comme aussi accepter un blanc. Alors, vous imaginez bien que des victimes de crimes terribles, bien sûr qu'il y a des, il y a des silences, il y a des moments. Et en fait, il faut jamais interrompre ces silences, d'ailleurs, parce que souvent, vous allez couper. La personne, ensuite, va passer à autre chose. Mais c'est très difficile, non. Oui, par exemple, il faut cette capacité-là. Il faut arriver à garder ce silence, arriver à être capable d'écouter quelqu'un sans l'interrompre. Et quand je dis je suis tout ce qu'il ne faut pas être, c'est que je suis capable de le faire, ce que je fais. Et je le fais très bien, très honnêtement. Je pense vraiment que je fais très bien ce métier-là. Alors que dans la vie, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis très volubile, je parle beaucoup, j'ai besoin, tout ça. Donc c'est assez étrange en fait, parce que c'est assez opposé à ce que je suis dans ma vie.
Céline Bardet, ça suppose aussi, je pense, le métier que vous faites d'enquêtrice internationale et de juriste, des connaissances, des réseaux, en tous les cas sur le terrain, forcément vous rencontrez des gens, mais toutes sortes de gens, des connaissances qui peuvent être utiles à beaucoup de monde. Vous n'avez jamais été approchée par des services de renseignement ?
Non, je sais et je le redis, écoutez-moi bien. Non, non, on m'a posé la question plein de fois et jamais. Vraiment, très très honnêtement. Bon, on peut toujours dire, si ça avait été le cas, je le dirais pas, ce qui est vrai aussi. Mais non, non, très honnêtement, jamais. En revanche, je les rencontre, je les vois. Je les vois sur le terrain. Et en revanche, c'est aussi intéressant parce que tu trouves sur le terrain, etc. Et puis d'un coup, pop-up, il y a quelqu'un qui arrive assis à côté de toi. Et d'ailleurs, que ça soit la France, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec les renseignements américains, anglais, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont des très bons. Enfin voilà, j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment excellents, quoi, qui faisaient un travail, voilà, de très grande qualité, en tout cas moi qui m'ont beaucoup marqué. Mais non, voilà, mais on m'a jamais, non, vraiment honnêtement, on m'a jamais demandé de venir travailler en fait pour les renseignements, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre. Bien sûr que sur le terrain, on les rencontre. Et bien sûr que je collabore avec eux. Au sens où souvent, ils ont des informations qui sont utiles. Et ils attendent, ils viennent aussi chercher beaucoup, bien sûr, d'informations. Donc c'est une espèce d'échange, bien sûr, de bons procédés, quoi. C'est-à-dire qu'on se passe des... Sachant que là-dedans, on est dans un objectif commun, en général. Voilà, quand il s'agit soit d'essayer d'identifier des auteurs de crimes de guerre, soit d'autres choses, même sur un contexte plus global d'un pays, etc. Donc voilà, donc on échange des choses, mais rien de plus que ça. Et puis en plus, ça m'aurait pas plu, j'aurais pas aimé, je crois, pour le coup. C'est pas un métier qui m'aurait intéressé, je crois pas.
Bon, c'est aussi un métier dangereux, c'est un métier où vous pouvez risquer aussi votre vie, on le verra demain. Sur un autre terrain... qui est un terrain que vous avez sillonné pendant plusieurs années, puisqu'on va parler des Balkans demain.
Ouais.
Kosovo, Bosnie, Serbie, vous y avez passé plus de 12 ans de votre vie.
Ouais.
Très important pour vous, fondateur. Ouais. Alors à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Céline Bardet, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Alexandra Bergel, avec la collaboration de Daphné Abgral, une émission de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France.